Merci Philippe et merci de laisser le temps pour les questions et l'échange.
Bonsoir, une première question. Je suis dans le noir. Sauf erreur de ma part, vous ne faites pas remonter la laïcité à la française au temps des guerres de religion et aux premiers édits de tolérance, etc.
Oui.
Alors que certains historiens le font, est-ce que c'est par manque de temps ou est-ce que pour vous c'est
C'est par choix.
par choix?
Évidemment, si j'avais eu le temps, je vous aurais expliqué pourquoi. Vous voyez, j'étais en train de travailler ce matin sur un article où je vais parler de John Rawls. Et John Rawls a écrit plusieurs livres, Théorie de la justice, et puis Libéralisme politique, par exemple, où il aborde la question la question du religieux, ce qu'il appelle les doctrines compréhensibles. Et alors, il s'interroge sur la sortie de la République chrétienne. Il nous dit, ce sont les guerres de religion, comme vous le dites, qui ont produit, au bout du compte, la désintrication du religieux et du politique. Alors, moi, je pense, si vous voulez, que les guerres de religion ont joué un rôle dans le fait que on a reconnu au culte minoritaire des possibilités d'expression qui n'existaient pas auparavant. Et on voit bien, quand on lit l'édit de 1598, l'édit de Nantes, que cet édit offre aux protestants un certain nombre de latitudes, des places fortes par exemple, des libertés publiques de culte qui n'existaient pas auparavant du temps de l'unité de foi. Alors le problème, c'est que, de mon point de vue, on n'est pas du tout dans le domaine de la laïcité. La laïcité suppose précisément le respect de la liberté de conscience. Ces édits-là sont d'abord, me semble-t-il, des mesures d'ordre public. On ne peut plus gérer les choses sur le terrain de l'unité de foi. Il faut accepter des exceptions. Les édits définissent un certain nombre d'exceptions. C'est ensuite, me semble-t-il, et que l'idée de laïcité va prendre toute son ampleur, tout son envol, à partir de la reconnaissance de la liberté de conscience, qui n'est pas encore dans les textes auxquels vous faites référence et qui sont des textes visant tout simplement, par les dispositifs qu'ils mettent en place, à rétablir l'ordre. La laïcité, ce n'est pas simplement de l'ordre, c'est aussi la possibilité de faire signe vers la reconnaissance pleine et entière de liberté de conscience. Une liberté de conscience qui s'exprime par l'égalité de tous devant la loi, ce qui n'était pas le cas dans les édits immédiatement ultérieurs, immédiatement postérieurs à l'éclatement des violences sacrées de la Saint-Barthélemy.
C'est
D'accord,
peut-être
c'est
néanmoins
clair.
une étape importante dans ce chemin vers un respect de l'autre différent. D'abord, cette affirmation chez certains de l'absolu de la conscience, de son for intérieur, qu'on trouve dans le protestantisme, et puis cette étape de tolérance qui est effectivement quelque chose de mal considéré à cette époque. Hein. On tolère parce que, bah, en gros, c'est plus pratique, effectivement, sur le plan de la police politique, publique, pardon. Mais ce passage par la tolérance d'une diversité va décongestionner aussi un certain nombre de catégories intellectuelles qui fait qu'on va pouvoir penser ensuite l'égalité de ces différences. C'est une pierre
Oui.
importante malgré tout. C'est pas la laïcité, mais c'est une étape.
Et tout dépend de ce qu'on entend par tolérance. Est-ce que c'est une tolérance purement pratique ou est-ce que c'est une tolérance qui admet la possibilité de penser différemment? Et l'idée que je développe souvent, c'est qu'on est encore jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on est encore dans un système qui accepte des exceptions au titre du moindre mal. Il faut attendre, au fond, les œuvres de John Locke pour que la tolérance puisse vraiment s'imposer. Alors ça, c'est une première remarque, mais immédiatement, je recule devant votre argument, Xavier, en vous disant que, il y a tout de même une chose qui se met en place à partir des guerres de religion. C'est cette idée que l'État se place en surplomb de la société. Et ça, c'est quelque chose de très important. L'État affirme, à ce moment-là, tout en réservant l'idée qu'il a qu'il doit réintroduire, quand ce sera possible, l'unité de foi, du point de vue de la gestion de la société, il se place au-dessus de la broussaille des opinions, au-dessus de la broussaille des croyances, même si son objectif, qu'il va réaliser d'ailleurs pour ce qui concerne la France, avec le fameux édit de Fontainebleau, la révocation de l'édit de Nantes en 1685, son objectif demeure l'unité de foi. Il reste cependant que tout un discours politique et toute une pratique aussi se mettent en place à partir des années 1560-1570 qui visent à donner à l'État ce qu'on appelle alors la summa potestas, le pouvoir suprême au-dessus des corps intermédiaires, à côté ou au-dessus de la puissance ecclésiale qui pouvait hier encore espérer le subjuguer. Donc il y a tout un discours qui se construit autour d'un groupe qu'on appelle le groupe des politiques, dont Jean Bodin dans les Six Livres de la République est l'un des pères fondateurs, qui va donner à l'État la possibilité de s'affirmer par rapport à la sphère privée dans laquelle se trouve reléguée au fond la religion. Donc vous voyez, situation complexe, parce que vous me contraignez par votre question à aller jusqu'au bout de mes arguments, je ne crois pas qu'il y ait tolérance, mais il y a déjà en effet une conception de l'État comme souverain, ce qui n'était pas dans la situation antérieure.
Merci, très clair.
Si vous me permettez une question, vous avez évoqué le fait qu'on a glissé sur une politique de surveillance, enfin de reconnaissance vers une politique de surveillance, et par extension, justement avec la suppression des concordats, donc ce rapport au financement, ce rapport à l'argent, avec un plus fort interventionnisme de l'État, tel que il semblerait que ça se dessine d'ailleurs avec la loi sur le séparatisme. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas là la limite peut-être critiquable de ce pouvoir de l'État qui se renforce, puisque on voit que finalement l'intervention est surtout technique, structurelle, mais pas forcément dogmatique, et que les problèmes qu'on peut rencontrer, et notamment les problèmes actuels, tiennent notamment à l'enseignement de la religion, puisque on fait référence à l'islam, à l'enseignement de la religion, à la manière dont l'éducation se fait, dont la transmission se fait, dont la formation des imams se fait, et finalement on reste encore dans l'écume de la problématique qui peut se poser.
Oui, non, c'est ce que vous dites est tout à fait important. Simplement, je dirais volontiers que l'État actuel, l'État français, essaye précisément non seulement de mettre en place une police des institutions, mais également de mettre en place tout un dispositif de formation. Et si l'on suit l'action de l'État depuis les années 1990 sur ce terrain, oui, Pierre Joxe va jouer un rôle, Jean-Pierre Chevènement également. On s'aperçoit qu'il y a tout un travail qui est fait pour structurer l'islam en France, qui aboutira avec Nicolas Sarkozy et la fameuse création du Conseil français du culte musulman. Première idée qui va se trouver prolongée aujourd'hui, vous le savez, par la charte des principes de l'islam, qui renvoie à cette idée qui avait déjà été élaborée dans les années 1990, qu'il faut soumettre les acteurs du culte musulman à des règles qui manifesteraient leur respect des principes républicains. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait sur ce terrain qui vise précisément, on pourrait y ajouter la trentaine de diplômes universitaires qui cherche à former les imams aux principes ou aux valeurs de la République. Et donc, il y a quand même tout un travail qui essaye de moderniser, en fait, l'esprit public musulman. À quoi il faudrait ajouter aussi ce qui se passe dans les écoles avec la mobilisation décrétée après 2015 autour des valeurs républicaines. Il se trouve que j'ai été le président de la commission de révision de l'éducation morale et civique pour ce qui concerne les lycées. Je dois dire que même si on m'a laissé très libre, il y avait tout de même des instructions visant à durcir de ce point de vue la façon de présenter la laïcité, de présenter le fait religieux, et donc de reconfigurer, si vous voulez, par des politiques éducatives, l'esprit public. Alors, on peut dire que l'État fonctionne de ce point de vue depuis les années 1990 en s'appuyant sur deux piliers. Le premier pilier, c'est en effet la politique éducative, et puis s'ajoute à cela une politique, appelons-la rapidement, coercitive. Elle ne plaira peut-être pas à tout le monde ici, mais on voit bien tout de même que si l'on fait application de la loi séparatisme, les cultes n'auront plus les mêmes libertés que celles qui leur étaient reconnues par la loi de 1905. La loi de 2021, qui prolonge les lois que je disais tout à l'heure, transforme assez considérablement le dispositif juridique en la matière. Ce en quoi on peut parler, si vous voulez, d'une politique biface, avec une politique éducative, sûrement, et puis une politique qui est aussi une politique plus organisatrice, certains disent coercitive, dont la loi de 2021 fournit un assez bon exemple. J'ajouterai un point sur les politiques éducatives, parce que vous mettez le doigt sur une question très importante: est-ce que l'État peut intervenir dans la formation des imams? Il essaye de le faire. Et vous voyez qu'à travers la charte des principes de la République offerts ou imposés aux imams, il y a des tentatives de ce style. Les diplômes d'université, laïcité vont également dans ce sens. Il y a une chose sur laquelle il n'est pas encore intervenu, c'est la question de la théologie. Et il essaye de le faire, mais il a beaucoup de mal parce que précisément demeure encore dans notre système les reliquats, si j'ose dire, de la loi de 1905, qui interdit à l'État de s'occuper des affaires théologiques des Églises. Et cela demeure, c'est une sorte de frein pour la politique étatique en la matière. Certains s'en désolent, mais pour l'instant, l'État n'a pas encore franchi le cap de s'occuper d'instituts de théologie qui changeraient les choses. Les choses sont tout de même en train de se mettre en place, puisque il a demandé, à partir du discours des Mureaux, à mettre en place un institut d'islamologie qui viendrait tenter de repenser ce que doit être la lecture authentique de l'islam dans la société française. Donc il y a à la fois des résistances dues à l'état du droit, et puis il y a en même temps des tentatives dues à la volonté de l'État aujourd'hui de reconfigurer un islam qu'il estime être dangereux. Si vous voulez mon opinion, je pense qu'il y a d'autres façons, c'est ce que disaient d'ailleurs les cultes ce matin, il y a d'autres façons de s'occuper de la sécurité que de transformer le régime des cultes. Transformer le régime des cultes, c'est toucher une liberté fondamentale, et probablement aurait-on pu, comme dans d'autres pays qui ne sont pas plus laxistes que nous, effectuer une distinction entre des politiques sécuritaires et des politiques religieuses. Il se trouve que la France a du mal à faire cela, et probablement est-ce un effet des reliquats d'une culture de la généralité qu'on a vue à l'œuvre au XIXe siècle, même si elle ne l'a pas emportée dans la loi de 1905.
Merci. J'aurais voulu poser deux questions rapides sous forme de remarques. Vous avez parlé de l'État qui intervient dans la vie des Églises, et vous avez donner quelques exemples pour montrer qu'il y avait plutôt un renforcement. Est-ce que ce n'est pas prendre le risque en même temps que les Églises interviennent de plus en plus dans la vie de l'État? Et je m'interroge sur ce que peut être la charte des valeurs républicaines que devraient signer les représentants des cultes, je pense notamment à l'Église catholique, sur la question de la parité, ce qui peut quand même poser quelques difficultés. Et puis, ma deuxième question sous forme peut-être de commentaires, c'est que ce que nous visons, c'est effectivement lutter contre le séparatisme, mais l'islam le plus radical, il revendique ce séparatisme totalement, à savoir que la charia est au-dessus de la loi de la République. Donc je ne vois pas ce qu'une loi peut apporter comme réponse pratique à des gens qui font profession justement d'être au-dessus de la loi de la République.
Oui, c'est pour la deuxième remarque qui est la vôtre, je la partage volontiers. Il y a là, d'une certaine manière, de la part de l'État, une méconnaissance, me semble-t-il, de la façon dont s'organise l'islam radical. C'est-à-dire que l'État intervient sur des associations, mais le propre de l'islam radical, c'est souvent de contourner les associations, et de les contourner d'autant plus que les associations seront soumises à des règles de surveillance plus strictes. Donc là, il y a une sorte de paradoxe entre l'État qui veut appliquer sa propre rationalité juridique, comme vous le dites très justement, à des acteurs sociaux, à des acteurs religieux qui font tout pour la contourner. Et donc là, il y a une sorte de paradoxe, et on verra, oui, on se retrouvera, j'espère, plus tard, on pourra en faire le bilan, on verra que dans toute une partie du monde radical musulman, c'est pourquoi je préconise plutôt des politiques sécuritaires en la matière, il y aura contournement de cette loi qui visera probablement des cultes qui sont aujourd'hui tout à fait raisonnables, pour parler comme Rawls, et laissera à part, précisément parce qu'ils ne reconnaissent pas la rationalité juridique, ceux-là même qui veulent mettre en cause, en péril, les valeurs de la République. Je partage tout à fait votre point de vue. Alors, sur le premier point, oui, vous savez, excusez-moi de parler de moi, mais j'avais fait une conférence une fois devant l'Assemblée des évêques de France. Et alors, j'avais parlé des mutations de la société française. Et puis, Monseigneur Barbarin, le cardinal Barbarin, c'était à Lourdes, prend la parole à un moment donné et me dit, mais enfin, vous n'avez pas parlé des valeurs républicaines, tout cela est absolument... insupportable dans la société française, on est en train de nous imposer un prêt-à-penser qui va à l'encontre de ce que nous sommes. Alors, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il est 20h47, et tout cela pour aller dans votre sens, les églises se sentent aujourd'hui souvent extrêmement en décalage avec un État qui prend vis-à-vis d'elle des libertés qu'auparavant il n'osait pas prendre. Avec un effet de halo, on vise l'islam, mais en visant l'islam, on vise aussi, en raison du principe d'égalité, des autres cultes qui n'ont rien demandé à personne et rien fait de mal à la République. Donc il y a là, évidemment, une difficulté aussi qui se traduit par un front des religions. Je vous quitte à l'instant parce que je suis attendu, on me fait des signes désespérés. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup et je vous prie de m'excuser. Je suis une impression.
Merci beaucoup.